Actu SF, les podcasts.
Eh bien, c'est parfait, on va pouvoir commencer. Merci à tous tout d'abord d'être venus aussi nombreux pour cette conférence intitulée « Des fantômes au corps astral », une conférence qui parlera beaucoup de fantômes, d'apparitions, de revenants, un peu de vampires je pense aussi, au vu de nos préparations, et de séries, de littérature, de films, de jeux vidéo, en fait tout ce qui concerne l'imaginaire et tous les médias possible et imaginable. Je suis avec ce soir Mélanie Fazi, qui est tout à mon extrémité, qui est autrice de fantastique, de nouvelles, traductrice, entre autres choses, de Lisa Tuttle et de son recueil Ainsi naissent les fantômes. Juste à côté de moi, nous avons Sylvie Bérard, autant pour moi, je suis désolé Sylvie, autrice de science-fiction québécoise qui a publié à l'heure actuelle 3 romans dont je te laisse dire les titres parce que je suis très mauvais avec les titres. Oui.
Tu ne parles pas québécois?
Si.
Oui, c'est ça, Terre des autres, alors très québécois, je vais vous traduire, c'est Terre des autres en français. La saga d'Ilige. Et tout récemment, un roman qui n'est pas un roman de science-fiction, mais où on retrouve le mot science-fiction 42 fois, une sorte de nitescence langoureuse. Alors, les trois sont chez à lire.
Enfin, Morgane Cossarieux, qui est autrice de romans plutôt de vampires, qui a publié récemment Rouge toxique, qui est un roman plutôt pour les adolescents.
Oui, les adultes peuvent le lire aussi.
Les adultes peuvent le lire aussi. Je l'ai lu, donc je pense que ça fonctionne. Et nous allons. Ma première question est toute simple. Qu'est-ce que pour vous un fantôme ? Est-ce que pour vous il y a des critères pour qu'un fantôme existe ?
Il faut qu'il soit mort. Première étape. Je vous laisse.
Ça dépend. Il y a des non parce que tout de suite je pense aux cas de figure de fantômes d'événements ou de fantômes de fantôme revenant, effectivement en général il est mort, encore que qu'il se soit passé quelque chose de traumatisant ou de violent. Pour moi il y a toujours une violence derrière le fantôme.
Oui, les fantômes sont troublés. Quoique le premier fantôme, j'essaie de penser au premier fantôme que j'avais vu dans ma vie à la télé, c'est Casper. Et bon, il est très gentil, il est troublé, mais il fait pas très peur.
Est-ce qu'il est mort, Casper, d'ailleurs, je sais plus.
Oui, il est mort.
Oui,
non,
oui, il y a le premier épisode, on voit qu'il...
Accident de luge.
Oui. Incollable.
Mais, que c'est beau, Casper, dit Christina Ricci.
Mais c'est un... Mais c'est un. On voit aussi que pour vous, quel fantôme vous a marqué en premier ? Tu parlais de Casper, mais je me tourne aussi vers Morgane et Mélanie. Quel est le premier fantôme qui vous est marqué ?
En premier, je ne m'en rappelle pas en fait. J'ai lu beaucoup de fantastique à l'adolescence. Je peux parler de films ou de choses qui m'ont marqué adulte. Le premier, honnêtement, je ne m'en souviens pas. Ça me reviendra peut-être en cours de route.
Dans ce logo, justement, de fantômes iconiques pour toi, quel est pour toi le meilleur fantôme ?
Alors, on commence tout de suite par les questions qui posent le truc. Enfin,
on parle d'image d'un fantôme, mais un fantôme n'a pas vraiment d'image.
En fait, un fantôme iconique. Je vais laisser la parole parce que je peux parler de plein de trucs et je n'en ai pas un vraiment qui me vienne maintenant.
Alors, je vais prendre cette parole. Alors moi, le premier fantôme qui m'a marqué, c'était dans les romans Chair de poule. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc le roman s'appelait Le fantôme d'à côté. Et ça reposait un petit peu comme le film Les autres sur un twist, où on suivait une petite fille qui ne comprenait pas pourquoi ses parents n'étaient pas là. Et puis il y avait un petit garçon qui emménageait juste en face de chez elle. Le petit garçon était blafard, il y avait une ombre qui la suivait. Puis le petit garçon lui dit « Mais je suis dans la même école que toi ». Elle fait « Ben non, je ne t'ai jamais vue ». Et elle pensait que la maison où il habite n'était pas habitée depuis longtemps. Et à la fin, elle se rend compte que ce n'est pas lui le fantôme, mais c'est elle. Et ça m'avait beaucoup traumatisée.
C'est marrant, j'en ai un qui m'a traumatisée, mais je ne peux pas dire qu'il m'est marqué dans le sens où je n'y pense pas souvent. C'est une nouvelle. Je lisais beaucoup les contes d'Andersen quand j'étais petite et j'avais un recueil. Il y a une nouvelle que j'ai très peu. Enfin, un conte plutôt que j'ai très peu lu dedans qui s'appelait Le Compagnon de route, il me semble, qui était une histoire de fantôme, on le comprend qu'à la fin. Où un jeune homme perd son père et part chercher du travail, il part un peu à l'aventure. Et il rencontre quelqu'un en cours de route qui l'aide. Non, avant ça, il y a un incident où il voit des voyous en train de s'en prendre à un cadavre pour le voler, et il les empêche de le faire. Et ensuite, il rencontre quelqu'un sur cette route qui va l'aider dans différentes aventures et qui est très bizarre. Enfin, il y a toute une partie surnaturelle vraiment glauque, en fait. Andersen, c'est pas léger, quoi. Et tout à la fin, je me souviens d'une phrase qui m'a fait vraiment frissonner. Il discute avec ce compagnon tout à la fin. Il lui dit « Tu te souviens de ce mort que tu as empêché des voleurs de détrousser ? Ce mort, c'était moi. » Et ça, je me souviens, je devais avoir 10 ans, cette phrase « Le mort, c'était moi. »
Ouais. J'ai une copine qui m'a parlé de ce... Je ne l'ai pas lu, mais j'ai une copine qui vient de m'en parler. Bah,
il est glauque parce qu'il y a toute une partie avec une espèce de figure de sorcière où il se passe des... Enfin, ouais. J'ai pas les détails. Je ne me souviens pas des détails, mais il est vraiment glauque, ce texte.
Je vais encore aller chercher dans dans ma mémoire quand un peu plus vieille, je me souviens d'une émission télé, mais là je suis vraiment plus vieille, fait que je sais pas qui est de mon âge ici. Mais il y avait une série télé, c'est traduit de l'américain, je pense, Madame et son fantôme. Ça s'est peut-être déjà repassé après. Ça se passe dans une maison au bord de la mer et le fantôme en question, c'est un ancien capitaine de bateau. Et donc, il est là un peu dans sa vie quotidienne. Donc, les deux exemples que je viens de donner, finalement, c'est des exemples qui ne sont pas très glauques. Pourtant, j'aime le glauque, mais bon, c'est des fantômes assez sympathiques.
Il y a aussi des fantômes bienveillants, oui.
Oui.
J'étais en train de penser, non, parce qu'en préparation, on parlait de films avant la table ronde, et en préparation, je me suis revue hier, un peu pour le fun, mon film préféré de fantômes qui est Les Autres. Et on a des fantômes plutôt bienveillants dedans, une fois que... Enfin, c'est compliqué de parler sans film sans se spoiler. Je ne sais pas si les gens l'ont vu ici.
Est-ce que vous voulez qu'on raconte quand même
qu'on ne spoile absolument pas les autres. Donc, comme disait Morgane, il repose. Au départ, on pense sur un twist qui est une famille est dans une maison. Le père est parti à la guerre, la mère est seule avec ses enfants. Plus les enfants, on élargit à la lumière, ils sont obligés de vivre dans le noir. Il y a quand même une ambiance super étouffante. Les serviteurs les ont laissés tout seuls et de nouveaux serviteurs arrivent. Et il se passe un truc inquiétant, on ne sait pas bien quoi. Et ensuite, on entend des bruits. On entend des bruits, il y a des portes qui claquent, il y a manifestation fantôme classique. On se dit, les enfants parlent d'un petit garçon qu'ils ont aperçu dans la maison et que la mère ne voit pas. Tout à la fin, on comprend en fait que... Vous avez 30 secondes pour quitter la salle si vous ne voulez pas. Ce qu'on peut deviner assez facilement, qui est que les personnages sont morts et ne le savent pas. L'intérêt étant, pour moi, pas tant ce twist-là que de simplement... c'est pas simplement qu'ils sont morts, c'est que la mère, étant abandonnée de tout le monde, s'étant retrouvée seule au monde, a complètement pété les plombs et a tué ses enfants. Et s'est suicidée ensuite. Et tout le film, ils sont dans cette espèce de déni de ne pas vouloir admettre que non seulement ils sont morts, mais qu'en plus, il y a ce crime atroce entre eux. Et je parlais de fantômes bienveillants parce que les serviteurs, à la première vision, on se dit « Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Ils sont un peu bizarres. On sent qu'ils ont quelque chose derrière la tête. Ils mijotent quelque chose. » Et particulièrement quand on revoit le film, on se rend compte que ce sont des fantômes bienveillants qui sont là pour les aider à comprendre. Et sans les brusquer, ils vont essayer de trouver, sachant que la petite fille notamment, il y a deux doigts de se rappeler tout du long ce qui se passe, ils vont essayer de passer par les enfants d'abord pour convaincre la mère. Et moi, je le trouve extrêmement lumineux, ce film, sur ça. Bon, il est triste, hein, moi, je pleure toutes les larmes de mon corps quand je le revois, mais c'est vraiment ce côté, bon, on est tous dans cette même galère d'être morts, mais on va essayer peut-être de s'aider les uns les autres et de rendre la situation moins violente. Et effectivement, ce sont des fantômes bienveillants qui me viennent. Alors désolée, je vous ai spoilé, mais c'est un film qui est encore plus beau la deuxième et la troisième fois que la première. Donc, voilà.
Mais de toute façon, le punch du film, c'est pas nécessairement l'élément le plus beau. Je sais, moi aussi, quelqu'un me l'avait spoilé parce que quelqu'un d'autre le racontait. J'ai une amie qui a dit « Ah oui, puis je suppose que c'est la famille qui est morte. » Mais t'as vu le film? Non, c'est juste... Alors, puis j'ai vu le film avec plaisir, donc n'ayez pas peur.
Bah, surtout qu'après, moi, il m'intéresse parce que... Alors, du coup, moi, ce qui m'intéresse dans le fantôme, c'est le côté beaucoup psychologique et, comme je disais tout à l'heure, la violence, la réaction à un traumatisme, la réaction à quelque chose de terrible qui s'est passé. Et je trouve qu'il est très fin sur un plan psychologique. Et pour moi, c'est un film sur le déni aussi. C'est pas juste le déni de le twist, on est mort, on le sait pas. C'est comment est-ce qu'on peut affronter un truc aussi monstrueux que la mère a tué ses enfants? Comment est-ce qu'on affronte sa propre mort, en fait? Comment est-ce qu'on peut se faire à cette idée? Et les personnages qui sont tout le temps dans cette espèce de tension de on essaie de se rappeler, non, on n'y va surtout pas. On essaie de vous faire se rappeler, non, on n'y va surtout pas, et à la fin, on y va parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et c'est vraiment, je le trouve très fin parce qu'il marche sur deux degrés, vraiment l'histoire de fantôme classique au départ, et après sur un plan psychologique. Mais c'est vraiment un des films les plus fins que je connaisse là-dessus.
Est-ce que le fantôme, justement, quel est l'intérêt du fantôme dans une œuvre, qu'elle soit littéraire ou filmique? Et là, je me tourne vers toi, Mélanie. Quand tu écris une histoire où il y a un fantôme, quel est le but d'utiliser une telle créature?
Ben, en général, ça va dépendre. J'ai envie de répondre, ça dépend. Ça dépend de l'histoire et de sa fonction. Moi, c'est vraiment la figure. Comme Morgane, son truc, c'est le vampire. Moi, c'est plutôt le fantôme. C'est quelque chose qui me fascine depuis longtemps. Alors, pourquoi, je ne sais pas forcément. Parce qu'il y a ce côté psychologique dont je parlais et qu'en général, il fait écho à ça. Il y a cette idée du, soit du passé qui essaie de ressurgir, soit d'événements familiaux ou autres qui... Il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été résolues. Il y a des choses qui sont un petit peu comme ça, dans, coincées entre on l'accepte, on ne l'accepte pas. Et moi, j'aime énormément ce côté-là dans le fantôme. Puis j'aime bien son côté insaisissable aussi sur un plan visuel. Après, ça peut être de beaucoup de manières différentes. Mais je dirais, il y a ce truc-là, le fantastique qui m'intéresse et psychologique. Et pour moi, il n'y a pas de figure qui incarne ça de manière plus belle que le fantôme.
Je me tourne là.
Oui, même question. Alors.
Oui, même question.
Alors moi, j'ai utilisé la figure du fantôme dans mon second roman, Je suis ton ombre. Alors c'était un fantôme un peu particulier parce que c'était le fantôme d'un vampire, d'un petit garçon vampire.
Tu cumules.
Je cumulais, ouais. Et j'ai voulu faire de... Autant mon premier roman, c'était de l'anti-Twilight, un roman de vampire. Là, c'était un roman de fantôme, donc c'est un peu de l'anti-Casper. Les gentils fantômes n'existent pas, quoi. Et donc, mon petit fantôme d'enfant, il incite un autre enfant à faire le mal, à le pervertir. Il le pervertit, il le pousse à tuer des gens. Et tout ça dans un but de réincarnation, parce qu'il cherche à se réincarner, à retrouver un corps. Et après, c'est pas un thème que j'ai inventé, hein, le fantôme du vampire, le corps astral du vampire, c'est quand même assez développé chez Anne Rice dans un roman, son roman Le voleur de corps, par exemple, où les vampires sont capables de sortir leur esprit de leur corps pour leur mettre dans un corps humain et pouvoir vivre des émotions d'humains. Donc voilà, j'ai essayé de faire une petite discrétion là-dessus.
Et en parlant de vampires, en préparant la conférence, on s'était interrogé sur est-ce qu'il y a des liens entre ce revenant, le vampire qui ne meurt pas au final et qui devient immortel, et ce fantôme qui parfois peut être immortel et continuer à vivre sans avoir forcément d'enveloppe charnelle et de...
Alors, au tout début de l'histoire des créatures en Europe de l'Est, c'est vrai que la créature qui revenait, le mâcheur de linceul, c'était un petit peu un mélange entre le loup-garou, le vampire et le fantôme. Donc les trois mythes ont une origine commune. Et il existe des... Bah, par exemple, je pense au film Candyman, où on a une créature qui est un fantôme qui représente la colère des Noirs, la colère de l'esclavagisme, d'une mort injuste, mais un fantôme qui va avoir énormément de caractéristiques du vampire, puisqu'il a un don d'hypnose, il est quand même assez palpable, il se reproduit par contagion, et il peut piquer, donc pas avec des crocs, mais avec des dards des abeilles. Donc très fascinant aussi comme personnage. Je trouve que c'est un bon lien entre les deux personnages.
En termes de représentation, comment on fait quand on écrit un fantôme pour essayer de lui donner une apparence?
J'ai envie de dire, on fait ce qu'on veut, c'est pratique. Le fantastique, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de règles. Il me semble, je ne suis pas sûre que ce soit extrêmement codifié ou que peut-être les codes évoluent. Parce que j'ai un flash justement des autres, la petite fille qui dit « Mais non, ce n'est pas des fantômes, les fantômes, ils ont des draps et des boulets. » Je pense que ça évolue. Après, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ben justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut choisir de jouer sur... Est-ce que, par exemple, c'est le fantôme de quelqu'un qui est mort, jouer sur son image? Est-ce que l'image est identique? Est-ce que l'image, au contraire, a été corrompue? Est-ce que le fantôme peut porter sa mort sur lui et quelque chose de très violent? Ou est-ce qu'au contraire, il est très ordinaire? Il peut être impalpable, en fait. Il peut ne pas être là. On peut avoir simplement des bruits, des choses... Là, on s'oriente peut-être plus vers les films de maisons hantées, les choses comme ça. On peut avoir tout ce truc-là. On peut avoir des apparences qui changent. J'ai même trouvé un cas. Alors là, je m'éloigne si je parle là-dessus. Je pensais au jeu vidéo Silent Hill, notamment, dont je suis très fan. Et on a un personnage de fantôme, une petite fille qui s'appelle Alessa, à qui il est arrivé un truc absolument monstrueux. Et dans deux des jeux, elle apparaît sous au moins une dizaine de formes différentes. Petite fille, adulte. Elle apparaît sous forme de boss qu'on affronte, sous forme de monstre, sous forme de souvenir. Elle est insaisissable.
C'est vraiment un fantôme, Alessa? Dans mon souvenir, c'est pas complètement un fantôme.
Bah, on ne sait pas bien, en fait. En tout cas, au minimum, c'est le fantôme des événements. C'est la mémoire de la ville. Donc, elle a au moins cette fonction-là. De mémoire, on la tue quand même à un moment donné. Donc, mais c'est vrai qu'au départ, on ne sait pas. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle n'est pas morte? Et c'est un fantôme qui me fascine parce qu'il est insaisissable, justement. Et je pense qu'elle incarne peut-être le fantôme dans le sens de la mémoire d'un événement, peut-être plus que...
Sinon, il y a le film A Ghost Story qui reprend la figure classique du vampire, du fantôme avec son drap mortuaire. Bon, pas le boulet, mais je trouve qu'ils arrivent à faire quelque chose d'assez intéressant en reprenant les bases.
Mais d'ailleurs, au cinéma, est-ce que la représentation du fantôme et le but du fantôme est différente, selon vous, par rapport à la littérature ou par rapport au théâtre ?
Bonne question. Bah, disons que dans la littérature, on peut tricher en ne donnant pas tous les éléments. On peut jouer plus sur l'insaisissable, alors que... Enfin, non, on peut aussi... Ah, bonne question, tu me poses une colle, en fait. Je pense qu'on a peut-être plus de marge de mystère, je dirais, dans l'écrit que dans l'image. Encore que.
En même temps, dans l'image, on peut jouer sur les signes du fantôme, on peut jouer sur les objets, justement, qui se déplacent, on peut jouer... donc, c'est des codes un peu différents. C'est vrai que dans l'écrit, on peut y aller avec même le monologue intérieur du fantôme, il n'y a pas de problème. On n'a pas à le voir, on n'a pas à le décrire. Ou il peut se décrire parce qu'il se perçoit lui-même, mais... c'est vraiment des codes très différents. C'est plus...
Je pense que c'est une des figures qui laisse beaucoup de liberté sur ça, justement, peut-être plus que d'autres. Plus que d'autres, j'en sais rien, parce que Morgane pourrait dire pour le vampire, est-ce que c'est très codifié à une époque ? Il me semble que le fantôme, il y a justement cette marge de liberté, de montrer, de ne pas montrer, de jouer avec tout ça.
Oui, après moi je trouve que le fantôme au cinéma fait beaucoup plus peur que le fantôme en littérature. On va dire qu'en littérature, on va peut-être plus chercher quelque chose de profond que quelque chose qui fait peur, une réflexion. Et c'est vrai que la plupart des films de fantômes, ça va plus se jouer sur le jumpscare et des choses comme ça, et ça peut être vraiment très effrayant.
Est-ce qu'il y a des fantômes qui ne sont pas effrayants ? Je pense,
il y en a...
je pensais par exemple à quelque chose que tu avais cité.
J'y pensais, Beetlejuice en l'occurrence.
Beetlejuice.
Ouais, le point de vue, en fait, le point de vue du fantôme, parce que là on est dans l'inverse des autres. C'est le point de vue du fantôme qui se retrouve à hanter sa maison et il y a des intrus qui arrivent. Mais ce qui est génial, ce que moi j'adore dans Beetlejuice, c'est ce côté complètement banal. C'est juste on est coincé là, on s'emmerde et en plus les nouveaux qui viennent nous envahir, mais ils sont complètement cons. Et avec l'enfer qui est vu comme cette espèce de bureau où on fait la queue pendant, enfin le truc vraiment de fonctionnaire. Donc là, pour le coup, c'est pas du tout une histoire effrayante.
Et je pensais au Revenant, toi qui.
Au Revenant aussi. Ah, le Revenant, c'est. Ça rejoint complètement le psychologique que je disais. Il est marquant sur ce qu'il dit du rapport à la mort, je trouve. Il n'est pas effrayant du tout. J'essaie de me le replacer parce que ça fait un moment que je l'ai vu. Moi, j'ai été vraiment marquée par les côtés psychologiques. Et il n'y a qu'une image qui m'en reste quasiment, c'est la mère qui. En plus, c'est pas des fantômes, ils sont pas impalpables. Ils reviennent tels qu'ils étaient avant leur mort.
On parle de la série. Hein,
oui, la série. Simplement, le problème, c'est qu'entre-temps, il s'est passé quoi, 4 ans ? Entre-temps, le monde a continué à tourner sans eux. Et entre-temps, leurs familles ont fait leur deuil. Et notamment, il y a deux sœurs jumelles. Une des deux est morte. L'autre a continué à grandir. Et il y a cette image de la sœur qui hurle en voyant arriver sa jumelle qui est morte il y a 4 ans, en fait. Et on est vraiment dans ce truc-là. Mais j'ai plus été marquée par les réactions. Je crois que c'est plus ça qui est marquant dans Les Revenants, c'est les réactions. Comment est-ce que, quand on a fait son deuil, on accepte quelque chose comme ça ? Comment est-ce qu'on peut réaccepter dans sa vie quelqu'un dont on a fait le deuil ? C'est plus ça, il me semble.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Les Revenants, il y a quand même des moments inquiétants, mais c'est pas une série. C'est une série.
Oui.
Ça, il y a peut-être une différence aussi entre avoir peur et être un peu inquiet à visionner quelque chose. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui ont eu très peur à avoir Les Revenants. Mais moi, j'étais plus inquiète. Il y avait plus vraiment. Il y a toujours. Mais il n'y a rien qui fait. Aussi, il n'y a pas d'effet. Peut-être aussi. Tout à l'heure, on disait que le cinéma ou la télé était plus propre à faire. À représenter peut-être des fantômes effrayants. Mais il y a aussi beaucoup de manipulations qui sont faites. Et même dans Les Revenants, il y a une manipulation. Mais la manipulation est plus faite pour nous déstabiliser. Quand on voit le petit Victor dans son coin qui.
Lui, il est inquiétant. Tout, lui, je suis d'accord, il est inquiétant.
Mais en même temps, qu'est-ce qu'il a d'inquiétant ? Il est juste là. Mais c'est parce qu'on connaît les codes aussi. On connaît.
Bah, Paul, c'est ça, on projette.
On sait que parce qu'on l'a mis là dans la réalisation, il doit se passer quelque chose avec lui.
Ben, on sous-entend qu'il sait des choses aussi. Il y a ce côté, ce petit garçon qui débarque, qui s'installe chez quelqu'un. Il s'installe d'autorité. Il ne dit pas grand-chose et on a vraiment l'impression qu'il sait quelque chose. Alors, c'est pas vraiment élucidé au bout du compte, mais il y a ce silence. Il y a ce silence qui est riche de possibles sur ça. Mm-hmm. Je repensais à un truc tout à l'heure, on parlait de la représentation, il y a un motif que j'ai oublié d'évoquer, c'est que tu as beaucoup de fantômes. Et là, je pensais au film japonais Dark Water qui m'avait marqué. Beaucoup de fantômes qui ont une apparence flippante parce qu'ils portent les marques de leur mort. Et là, je pense à cette petite fille qui s'est noyée dans. Désolée, je vous spoil tous les films.
Elle est horrible.
Qui s'est noyée dans un réservoir et en fait, il y a l'eau qui est associée parce que la mort est liée à l'eau. Et il y a beaucoup d'histoires de fantômes où justement, le Candyman, c'était pareil, les éléments de la hantise sont les éléments liés à la mort. Comme si on n'arrive pas à dépasser ce truc-là et on le. on l'inflige aux autres, en fait. Je pars dans tous les sens, mais ça me revient à l'instant.
Oui, mais ça me fait penser à toutes les séries de Freddy Krueger aussi, Murder on M Street. C'est exactement ça. Il fait subir, il se venge, il fait subir les mêmes éléments de sa punition aux descendants qui l'ont lésé, qui l'ont assassiné aussi. Mais il n'était déjà pas nécessairement un ange à l'origine.
Il n'était déjà pas très sympathique.
Non, pas très.
Mais l'image du fantôme vengeur, est-ce que ce n'est pas vraiment un thème purement cinématographique? Plutôt du genre de horreur qu'on trouvera moins en littérature ou dans d'autres médias.
Donc là, il faut trouver le contre-exemple parce qu'il y en a forcément.
Mon roman, justement, c'est presque du fantôme vengeur.
Ça va alors.
C'est
presque,
ça va.
Presque. Mais bon, c'est fantôme d'un vampire alors. Hein.
Oui.
Il y en a forcément. Il y en a pas chez King. Ah bah si, chez King. Je pensais King. Bon, je pense Sagdos qui est pas le plus connu, mais. Sagdos qui est très étrange parce que la hantise se manifeste de manière... Il y a une des scènes, c'est drôle, dans Sagdos qui m'ont le plus terrifiée. Personne d'autre s'en souvient. C'est à un moment donné, le personnage... Il y a une histoire de hantise parce que justement un crime raciste extrêmement violent a été commis dans le passé et des événements se produisent qui sont liés à ça. Donc là, on est vraiment complètement dans le fantôme vengeur. Et à un moment donné, le personnage feuillette un annuaire et on a les pages de l'annuaire. Et je me souviens qu'il tourne les pages et on découvre que tous les prénoms de tous les habitants de la ville commencent par la lettre K, absolument tous. Ce qui est quand même une lettre qui n'est quand même pas si courante dans les prénoms. Et c'est lié au prénom d'un des morts, en l'occurrence. Et j'ai souvenir d'un frisson en lisant ça, cette sensation d'étrangeté totale. Et putain, personne ne se rappelle cette scène, en fait.
Ça me dit vaguement quelque chose.
Non, elle m'a terrifiée.
Hein non, ça me dit vaguement quelque chose. Oui. Je l'ai lu il y a 20 ans.
Mais il y a souvent une gradation aussi chez King, dans Cimetière, par exemple, où on commence par le chat, ensuite il y a l'enfant, ensuite, et la terreur monte là, à mesure que... Justement, c'est une vengeance aussi dans ce cas-là.
C'est pas vraiment un fantôme, mais la sœur de la mère qui revient, le souvenir de la sœur de la mère, la culpabilité. Je ne sais pas si... Bon, dans le film, j'ai vu que le film.
Je n'ai lu que le roman il y a très longtemps, mais je sais qu'il y a un élément de culpabilité. Aussi. Ben, de toute façon, tous les personnages de King se sentent coupables de quelque chose. Si on ne sait pas pourquoi, eux, ils le savent.
C'est pour ça que ça marche, et c'est là-dedans que les fantômes vont s'enraciner, justement.
Et le fantôme est voué à apparaître, à nous rappeler des choses. Est-ce qu'il y a des fantômes qui se libèrent de ce poids de fantôme pour disparaître?
Si la situation est résolue, souvent les histoires de fantômes vont tendre vers ça, la résolution et à la fin une libération. C'est souvent la fin de la hantise, enfin exorcisme ou autre.
Oui, dans Ego Story, en fait, le personnage se retrouve dans une sorte de boucle temporelle où il voit un peu comme dans Beetlejuice les locataires arriver dans sa maison que lui n'arrive pas à quitter. Il doit faire le deuil de sa copine. Et en fait, sa copine, si je me rappelle bien, avait coincé un petit bout de papier dans le mur. Et en gros, au début, dans sorte de sa premier cycle temporel, il essaie de gratter le mur pour trouver le bout de papier et il n'y arrive pas. Et ensuite, il revient à une sorte d'expérience mystique où il comprend un peu l'univers. Et quand ensuite il revient là où il était, là, il arrive à sortir le petit bout de papier. Et je crois qu'on ne sait même pas ce qu'il est marqué dessus, mais là, il est enfin libéré et le drap tombe. Ce qui était assez joli.
Oui, ben, je pense que beaucoup de fantômes sont une histoire de rédemption, en tout cas, il y a comme un besoin de se sauver de cet état de fantôme. Contrairement peut-être aux vampires, ou en tout cas qui ont l'air très heureux de leur condition de vampire, les fantômes, on les représente souvent dans une situation où ils veulent accéder, ils veulent entrer dans la lumière, ils veulent sortir de là.
Mais il y a ce côté où on est pris dans une espèce de boucle, on n'arrive pas à se sortir d'une situation ou d'un souvenir ou de quelque chose, et ça se répète tant qu'on ne trouve pas à briser ce cycle. Donc soit on détruit le fantôme, soit on le libère. Je pense qu'il n'y a pas d'autre... Mais oui, il y a complètement ça.
Pour tout ce qui est fantôme, on avait prévu la table ronde sur jusqu'au corps astral avec quelques liens sur la science-fiction. Est-ce que l'évolution de la société avec le numérique, les intelligences artificielles, ces entités qu'on n'arrive pas à toucher mais qui sont tout autour de nous, ne créent pas des sortes de fantômes? On pense au ghosting, par exemple, ces gens qui disparaissent, qui ne nous appellent plus et qui disparaissent des réseaux sociaux, ces intelligences artificielles qui sont des entités. On pense à Heure, par exemple, la place du système d'exploitation qu'utilise le personnage principal, qui est une entité mais qui n'est jamais trop grave. Est-ce que l'intangibilité se rapproche du fantôme ou pas?
Ben, déjà, le fantôme c'est a essaimé à peu près dans toutes les directions. On a eu beaucoup aussi. On se rend compte aussi en grattant que toutes les cultures ont leur sorte de fantôme. Alors, je pense aussi dans différents textes ou films, on a vu aussi des fantômes qui ne sont pas juste des fantômes occidentaux, par exemple. Mais pour ta question, j'essaie de me demander, est-ce qu'il y a des fantômes de science-fiction? Et je pensais, entre autres, et là, j'ai un trou de mémoire, mais l'épisode de Black Mirror, où ils sont dans les... où c'est des personnes
Juniper.
Âgées...
Juniper, je crois. Bienvenue à Juniper, un truc dans ce cas-là.
C'est l'épisode, en tout cas, où ils sont dans la réalité virtuelle. Et là, on a finalement des gens qui décident de vivre leur retraite déjà en réalité virtuelle. Mais bon, vous pouvez vous boucher encore les oreilles si vous n'avez pas vu l'épisode. Mais à la fin, on apprend qu'en fait, c'est leur vie éternelle. En fait, ils peuvent décider de se débrancher à un moment donné, mais ils vivent sans corps dans le réseau. Alors qu'elle est, mais en ayant l'impression d'être fait de matière, parce que c'est une espèce de Second Life version améliorée. Donc, quelle est la différence entre ça et un fantôme, par exemple, quand c'est seulement l'esprit de toute façon? Bon, là, en fait, la différence, c'est peut-être qu'il n'y a que des fantômes dans ce réseau-là. Il n'y a personne qui est matériel.
Oui, et c'est assez marrant. Voilà, je n'ai pas vraiment d'exemple de film, mais j'ai l'impression que c'est assez fréquent. L'intelligence artificielle, souvent, on essaie de lui attribuer un corps, un peu comme le fantôme qui dans ce cas-là, essaierait de se réincarner. Enfin, on dirait qu'il n'est pas satisfait de son incorporalité. Je ne sais pas si on peut dire ça. Et oui, et souvent on lui construit un corps robotique qui imiterait l'humain. J'ai plus de titre de film là qui me viennent, mais je suis sûre qu'il y en a.
Je sais pas, attends, un titre.
J'essayais de penser aussi à si moi j'avais déjà parlé de fantômes dans mes textes. Et. J'essayais de penser si j'avais déjà parlé de fantômes dans mes textes qui écrit de la science-fiction, et j'ai cette idée de possession-là. Je pense qu'en science-fiction, je l'ai fait par exemple dans et on parle beaucoup aussi de transhumanisme aux utopias cette année, ben tout le temps, cette idée de se transférer dans un corps aussi, donc on possède finalement, on va posséder un corps qui n'était pas le nôtre à l'origine, donc il y a quelque chose de quand même assez apparenté aussi.
Oui, il y avait un épisode de Buffy, dans la première saison de Buffy, donc quand même, il y a un petit moment. Et non, c'est pas celui-là, c'est Mnemoc le démon. Et du coup, en fait, il y a un démon qui se retrouve enfermé par un sortilège, enfermé dans l'ordinateur. Et ensuite, on essaie de lui construire un corps robotique qui imiterait le démon qu'il était. Et il prend un peu possession de tous les gens qui utilisent Internet. Et c'était au tout début d'Internet, donc je trouve que ils avaient bien joué, quoi. C'était assez préfigurateur.
Non, rien. D'accord. Je crois que tu avais Sylvie quelques textes à nous lire d'auteurs, si tu as envie.
J'en avais trois, mais ça va peut-être être trop long, mais je voudrais vous en lire un.
Demander au public au bout du premier s'ils en veulent un deuxième. C'est pas...
Alors c'est ça, je me suis dit que j'allais peut-être, étant donné que je suis la québécoise de service sur cette table ronde, j'allais me comporter en québécoise de service et vous lire un extrait de Fantôme à la québécoise. Je vais vous lire un extrait d'un roman d'Esther Rochon qui... Ouais, merci. Okay. Je vais vous lire un extrait d'un roman d'Esther Rochon qui a toujours une façon assez amusante de présenter l'au-delà. Elle a écrit une... Si mon iPad veut bien se comporter. Elle a écrit, entre autres, une série de romans qui se passent en enfer, mais des enfers assez... assez bouddhiste, en fait. Et voilà comment son personnage dans La rivière des morts. La rivière des morts se passe à Montréal, mais on découvre qu'il y a une vie souterraine lovecraftienne à Montréal. Alors, ça va comme suit. Je me demande ce qui va se passer après ma mort. J'aimerais devenir un fantôme pour avoir des pouvoirs spéciaux, ceux que l'on attribue à ces êtres éthérés. Je saurai alors où sont les restes de l'homme, dans quel dépotoir ils ont pourri, enfouis sur tout ce qu'on leur a empilé dessus. J'ai songé à ce que je voudrais faire pour le grand homme. Fantôme à mon tour, j'irai au lieu de sa déchéance pour le voir et toucher à ce qui reste de lui. Je lui présenterai mes excuses pour ma conduite insouciante de jadis. Son spectre à lui se serait sans doute renforcé au contact des choses enfouies, morte et révolue. Peut-être pourrait-il s'emparer alors de moi, me garder vraiment prisonnière, comme il avait vainement tenté de le faire autant jadis. Je ne résisterai pas, je demeurerai captive de ses ramures écrasées, envahie par les moisissures, brisée peu à peu par ce qui s'empile dessus, d'où l'espace deviendrait lentement exclu. Comme lui, je me transformerai lentement en humus, afin que, un jour nouveau, des siècles plus tard, quelque chose de libre germe de l'amoncellement de conscience et de terre pressées ensemble. Entre-temps, nous demeurerions unis comme des amants souterrains, liés en une étreinte spectrale et pourrissante par laquelle s'exprime la justice du monde. Alors, je trouve que c'est une façon très intéressante, très qui synthétise beaucoup de choses qu'on peut dire des fantômes, l'idée d'être hanté par une obsession, mais l'idée aussi un peu de consentir aussi peut-être à être un fantôme, l'idée de pourriture aussi, mais l'idée aussi un peu de transcendance de la pourriture. Alors, c'est un petit extrait que je vous offre.
Est-ce que vous en voulez un deuxième ou pas? Vous pouvez le gamin, ou soyez pas timide. Vous pouvez le dire aussi à voix haute, on vous entend.
C'est des oui ou des non, les mains levées.
Je sais pas, personne ne lève la main, donc. Si vous en voulez un autre, levez la main. On va en faire.
Alors, un texte plus contemporain. Je ne sais pas si vous connaissez Ariane Gélina, qui a parlé aussi des...
qui est venue ici l'année dernière et il y a deux ans.
Je vais vous lire, je vais vous rappeler des souvenirs d'Ariane Gélina. C'est dans son roman « Les cendres de Sedna ». C'est une histoire très ancrée dans le contexte québécois, mais en même temps avec des personnages d'hommes oiseaux, de créatures marines qui se vautrent dans la pourriture des baleines échouées. Et enfin, bon, si vous connaissez Ariane Gélina, vous connaissez son univers. Alors, je vous lis un petit extrait. Mon père avait l'habitude de visiter la tombe de ma mère à chaque lune ascendante après le festin de Moskouhan. Encore barbouillé de gras et de moelle de caribou, il sortait dans la nuit, souvent à ma compagnie, les bras emplis d'objets scintillants. Il les déposait dans les entailles du rocher où gisaient des centaines d'ossements carbonisés par l'orage. Ce mausolée m'a toujours fascinée et effrayée à la fois. Des murmures montaient parfois des rainures, semblables à des échos venteux particulièrement sinistres. Enfant, je pensais que le massif hébergeait une horde de revenants. Ni Mitiling ni ma grand-mère ne m'ont jamais détrompée. De temps à autre, racontait-on, des cérémonies macabres se tramaient sur le versant de la montagne. Des grappes d'oiseaux fugitifs s'élançaient en criant vers les crêtes de granit. J'abordais donc les lieux avec une pointe d'appréhension, malgré le passage des années. J'arrête ici. Merci de votre écoute.
Tu voulais en dire quelque chose de ce texte ou...
Oui, ben ce texte-là, j'en ai parlé un petit peu. C'est vraiment du réalisme magique ou du fantastique contemporain. C'est difficile de décrire l'univers d'Ariane Gélina, mais tout est vrai. Il n'y a pas les vivants et les morts, l'imaginaire et le réel chez Ariane Gélina. Alors, c'est ce que je vais en dire, et puis sinon, allez lire, il est à la librairie ici.
On a du temps, et j'aimerais bien faire participer le public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, on va amener un micro. Attends, il n'est pas allumé. Hop.
Essayer, ça marche. Donc bonsoir. Par rapport à la partie corps astral, vous n'avez pas trop évoqué tout ça. Je ne sais pas, quelle est votre expérience, qu'est-ce que vous y intéressez
Oui, alors moi je m'y intéresse beaucoup, et d'ailleurs mon tout dernier roman qui s'appelle Technofreaks, qui se passe dans les clubs berlinois et qui fait la part belle à une drogue qui s'appelle la kétamine. Et alors la kétamine, à la base, c'est un anesthésiant pour les chevaux, mais aussi ça permet de faire des expériences de décorporation, des expériences de mort imminente. Donc le corps reste zombifié, immobile, et c'est le voyage intersidéral. Et voilà, donc je décris des expériences dans ce genre-là, dans mon roman.
Je connais pas spécialement le sujet, moi c'est plutôt Morgane en fait. Là.
Mais ça se vit, hein, ça ne se parle pas.
Et comment ça se décrit justement?
C'est très compliqué parce que ce qu'on ressent à ce moment-là, c'est pas traduisible par des mots et par des impressions. Et sur le moment, on a l'impression de comprendre des choses qui ensuite, une fois revenues dans son corps, ne signifient plus vraiment grand-chose à notre niveau de conscience à nous. Donc, je pense pas avoir réussi à en parler totalement. Enfin, des impressions, c'est sûr, mais pas. C'est impossible à retranscrire vraiment. Mais c'était intéressant d'essayer.
Non, je vais laisser vraiment l'autorité en la matière parler.
Le junkie de base.
Est-ce qu'il y a une autre question? N'hésitez pas à lever. Oui. Hop, Gaba.
Bonjour. Mis à part le fait de la mort du corps, quelle différence vous faites entre un fantôme et un corps astral qui, du coup, n'est plus incorporé? Enfin, il n'y a plus de corps.
Le fantôme est mort et le corps astral, pas forcément. Enfin, il y a encore un corps qui l'attend quelque part.
Qu'est-ce qui arriverait si le corps disparaissait?
Il viendrait le fantôme.
Donc c'est peut-être la différence. Hein. C'est la présence ou l'absence d'un corps fonctionnel.
La matrice, on
Mais du coup, si je peux me permettre, comment est-ce que le corps astral peut avoir les mêmes fonctions que le fantôme?
Petite maline.
J'ai pas l'impression, a priori, de ce que Morgane ont dit, que ça part dans les mêmes. Oui, moi, j'associe vraiment, comme je disais, le fantôme à tout ce qui est symbolique, psychologique, etc. Et là, c'est pas du tout de ça que.
Oui, après, bon, je pense qu'il y a plusieurs définitions du corps astral. Moi, je n'en donnais qu'une. Hein. Enfin, je pense que. Là, j'ai pas d'exemple d'œuvre, mais ce que tu dis. Enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup d'œuvres où on pourrait dire que le fantôme n'est pas vraiment un fantôme, mais un corps astral. Ou...
Il y a peut-être une différence aussi dans la violence du détachement aussi entre le corps et l'esprit. Parce que, bon, en principe, dans la question du corps astral, il y a une recherche de cet état aussi d'élévation, ou en tout cas de séparation. Alors que dans les exemples de fantômes qu'on peut trouver, souvent, il y a eu une violence, il y a eu un arrachement aussi. Les fantômes ne sont, en fait, quand on rencontre des fantômes dans la fiction, ils ne sont généralement pas très heureux d'être devenus des fantômes. Ils auraient préféré rester là. Hein. Mmh.
Donc, c'est intéressant que tu parles de recherche, du coup, parce que personne ne recherche le fantôme.
Oui, ce serait plus un achèvement, le corps astral, alors que le fantôme, c'est un peu le pire truc qui pourrait arriver.
Moi, en fait, j'ai deux références qui me viennent à l'esprit. Enfin, je voulais vous demander ce que vous en pensiez par rapport au fantôme et au corps astral. Donc, deux films, donc Insidious, mais aussi Star Wars, le dernier. Ouais. Où, justement, il y a une scène, après, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais où, justement, il est question aussi un petit peu de corps astral.
Insidious, c'est dans le final. Alors, je sais plus, je l'ai vu il y a longtemps. C'est dans le final quand ils vont rechercher, en fait,
dans le monde des ténèbres.
Ils vont rechercher l'esprit de l'enfant, plus ou moins, de l'autre côté. Oui.
Dans le premier, en sachant qu'on a les fantômes aussi.
Ouais. Bah là, on est vraiment dans ce truc de je sors de mon corps et je vais chercher de l'autre côté, mais c'est effectivement une recherche. Je me dissocie moi-même. On n'est pas du tout dans le cas de figure du fantôme qu'on a évoqué, effectivement.
Oui. Mais c'est vrai que du coup, là, le corps astral et le fantôme sont mis sur le même niveau. Ouais. En gros, tu deviens un fantôme si tu deviens un corps astral, même si tu récupères ton corps après.
Alors, Star Wars, je passe mon tour, je n'ai pas vu, en fait.
Moi non plus, je passe mon tour. On va perdre notre carte de membre.
Non, j'ai pas vu Star Wars non plus.
J'ai vu Star Wars.
Je me suis arrêtée, il y a 4 ou 5 Star Wars.
Je l'ai vu deux fois, mais c'est pas pour des questions de fandom. Pour répondre à ta question sur, on part bien de la scène avec le combat de fin ou oui. Sur la méditation. C'est un beau corps astral, mais c'est aussi, je pense, une volonté de continuer ce qu'ils avaient commencé à faire avec tout ce qui était le principe du fantôme qui apparaît après la mort d'un Jedi. Quand on voit la trilogie. Et après, ça reste un corps astral qui est à peu près fonctionnel. Quand on voit c'est même de la duplication qu'on fait attention, parce que quand il arrive avec son sabre laser et qu'il commence le combat, il n'y a pas d'effet de flottement. Il y a un corps astral qui théoriquement est très peu tangible, voire
est-ce un hologramme ? Est-ce un corps astral ?
Voilà, c'est la question qu'on se pose pendant quasiment tout le film. Et on voit justement, est-ce que j'ai le droit de révéler la fin de Mark Hamill dans
On n'est plus à ça près, je pense.
On n'est plus à ça près ? Bon, Luke Skywalker meurt. Meurt. Selon les critères purement de Star Wars et de son univers. Mais pour autant, moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est qu'on voit pas de forme, spectrale telle qu'on peut l'avoir dans la fin de chaque Star Wars depuis qu'ils ont instauré cette chose. Donc, est-ce qu'il va vraiment disparaître ou non ? On sait qu'il est au casting du prochain. Moi. Mais on ne sait pas trop, parce que la production, ça se passe plutôt mal avec Disney et Mark Hamill depuis le dernier épisode. Mais je m'interroge sur quelle forme va prendre Luke Skywalker, si ça va être un fantôme comme Yoda qu'on voit aussi en forme spectrale dans le même épisode, qui va être va-t-il réussir à donner une autre incarnation ? Parce qu'on n'a pas cette fin à Disney où il apparaît, où il devrait théoriquement apparaître à Rey à un moment tel que le font les canons de Star Wars. Dès qu'un Jedi meurt, théoriquement, à part Mace Windu, c'est peut-être le seul que je ne vois pas apparaître, mais c'est un rogue secondaire. Donc, mais théoriquement, un personnage principal de Star Wars, quand il meurt, on le remet toujours au générique d'une façon, de forme spectrale ou non. Où il apparaît en laissant un message. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je m'interroge sur quelle forme et l'utilité même de le faire disparaître sans le faire réapparaître dans la continuité, en fait. J'espère avoir répondu à ta question.
Oui,
voilà.
C'était hyper complet.
D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je vois qu'il y a un micro juste là.
Oui, ce que je me demandais, c'est par rapport... moi, quand je pense au corps astral, j'ai beaucoup plus pensé tout de suite sur des questions chamaniques, en fait, et sur, on va dire, des peuples premiers, avec tout ce qu'on peut voir par rapport à cette utilisation-là, mais non qu'une notion de recherche et de différentes perceptions de la réalité ou des réalités par rapport à un fantôme qui est plus un résidu de quelqu'un dans notre monde. C'est là, le corps astral, ce serait plutôt une volonté d'aller ailleurs, et donc ouais, quelque chose de volontaire.
Oui, je suis d'accord, j'ai rien à redire par-dessus, je suis plutôt très d'accord.
Oui, bon, c'est ça, peut-être qu'en disant que les fantômes ne veulent pas être fantômes, peut-être que c'est très occidental aussi comme vision. Ben, quand je dis occidental, européen aussi, plutôt, en fait, pas juste... Bref, mais effectivement, il y a des cultures, et je ne vais certainement pas entrer dans les détails parce que je vais dire des bêtises, mais il y a des cultures où on vit quotidiennement avec les fantômes, avec les esprits. Il n'y a pas de distance pratiquement entre les deux aussi. Ça fait partie aussi du quotidien. Alors, oui, peut-être qu'on a une vision un peu épouvantée du fantôme dans les sociétés qu'on connaît, mais il y a effectivement des sociétés...
Oui, on pense au vaudou aussi, où les loas chevauchent les personnes, prennent possession des personnes, donc ça ressemble quand même beaucoup aux fantômes aussi, quoi.
On trouve aussi dans le cyberpunk avec Gibson et sa trilogie où les lois prennent carrément, sont quasiment des intelligences artificielles à un certain point. Le rapport entre intelligence artificielle et magie est quand même très présent. Mais le rythme chamanique est quelque chose de très présent pour communiquer avec les esprits. Dans certaines cultures, la culture amérindienne, des esprits et de la famille, on passe par des rituels chamaniques qui impliquent plus ou moins un corps astral. Ça, c'est... Pour moi, ça reste évident.
Après, les rituels chamaniques, c'est pas forcément que pour communiquer avec les esprits, c'est suite croix, mais c'est aussi souvent pour soigner des maladies mentales. Et c'est une façon de régler, c'est leur médecine, quoi, c'est leur façon de régler leurs problèmes.
Ouais, moi je voulais savoir si vous faisiez une différence entre esprit et fantôme, notamment au niveau de l'utilisation. Et en fait, j'avais en tête dans les œuvres de Peter F. Hamilton où les morts reviennent sur Terre et possèdent le corps des vivants, mais on n'a jamais cette image du fantôme quelque part.
Parce que je m'étais interrogée sur ça. Je suis pas moi le fantôme. Je l'associe beaucoup à cette notion de mort ou de revenant. Et l'esprit, c'est peut-être plus. Enfin, je dis peut-être une énorme bêtise parce que c'est pas nécessairement mon domaine, on va dire, de compétence. L'esprit étant quelque chose qui est déjà là, qui est associé aux choses, qui est associé à la nature, associé à des choses. Alors que le mort, c'est plutôt, comme je dis, il y a une fracture, il y a une rupture de quelque chose qui va provoquer le fantôme. Mais je suis pas sûre. C'est plus une intuition. Mais je me suis interrogée sur ça en préparant. J'ai pas réussi à trancher vraiment sur ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Moi, j'ai un doute sur un film des années 80 qui est beaucoup passé sur des chaînes des heures très tardives, qui était très, enfin, qui moi me faisait peur quand j'étais jeune. C'était Poltergeist. Mais j'ai un doute sur l'origine même du Poltergeist en tant que tel.
C'est sûr qu'il n'y a pas une mort.
On vous écoute. On va vous donner un micro, ça va être plus simple.
Où on range les manteaux, tout ça, là, était hanté. Et la petite fille était toujours attirée vers ce porte-manteau, jusqu'au jour où elle a été happée.
Oui, donc il y a une faille vers un autre monde.
C'est ça. Mais donc il y a des fantômes, donc c'est un cimetière, il y a nécessairement des esprits incommodés.
Ça m'a vachement marqué, ce truc.
Il y a une référence qui me venait, à laquelle je me posais la question, c'était pour le coup, on change un peu de registre, c'est le chant de Noël de Dickens, où on a à la fois un fantôme au départ, c'est le fantôme de l'ancien associé de Scrooge qui vient lui dire « tu vas recevoir la visite de trois esprits ». Il me semble que les trois esprits ensuite ne sont pas du tout des fantômes, mais ils ont une fonction qui est de lui montrer son passé, son présent, son avenir. Et ils ont une fonction plutôt attribuée, et juste, pour le coup, ce ne sont pas des fantômes, il me semble.
Est-ce qu'on a répondu à ta question ? Est-ce qu'il y a une autre question par hasard ? Je vois des mains qui se lèvent au fond. Voilà.
Bonsoir.
Ça fonctionne.
Alors, moi, j'avais plus une remarque parce que je pensais qu'on a moins parlé du côté vraiment science-fiction dans le sens technique, robots et machines. Il y a deux exemples qui viennent à l'esprit, Star Wars et Doctor Who, où dans Doctor Who, il me semble que quand Matt Smith était encore le docteur, il garde dans son TARDIS à un moment un hologramme de River Song. Qui est depuis, bon c'est un spoil encore une fois, mais qui est décédé depuis longtemps, mais il veut pas la laisser s'en aller. Et dans Star Wars, dans un des derniers aussi, il y a l'hologramme de la princesse Leia qui a été enregistré dans la guerre des étoiles, qui dit Obi-Wan Kenobi, au secours, vous êtes mon dernier espoir. Et que R2-D2 montre à Luke Skywalker, mais des années après, pour lui rappeler, à la base, il y avait quand même une raison, il faut que tu reviennes vers tes amis. Donc, en fait, je trouvais que c'était une dimension qui est intéressante parce qu'on a beaucoup parlé du fantôme qui revient parce qu'il ne veut pas s'en aller. Mais il y a aussi, après, la dimension des vivants qui ne veulent pas laisser s'en aller les morts et qui créent, et même dans Harry Potter, même finalement, il y a cette dimension-là. Ils rappellent les morts à la vie avec des pierres magiques pour les ressusciter parce qu'ils ne veulent pas les laisser s'en aller. Et ça crée, après, des esprits qui sont, en tout cas dans le cas d'Harry Potter, qui sont insatisfaits parce qu'on les a rappelés.
Moi, ça me rappelle ce que tu dis, ça me rappelle un épisode de la dernière saison de Black Mirror où ça se passe dans un monde genre Star Trek. Et en gros, le monde Star Trek, c'est un cloud. Et l'inventeur du cloud emprisonne des gens qui l'ont emmerdé dans sa vraie vie pour les torturer, leur faire tout ce qu'il veut et les esclavagiser. Et donc, du coup, ils sont prisonniers et ça va être comment sortir du cloud et au final, je crois qu'ils n'y arrivent pas. Mais bon, ensuite, ils maîtrisent leur cloud. Quoi.
On ne racontera pas trop, à fin.
Ben non, mais là, on
ouais,
est
trop
bon.
Tard. Pour répondre à ta question, pour Dr. Who, je crois même que dans un épisode, ça doit être toujours sur le regard de Matt Smith, sachant que Riversong est enfermé dans la bibliothèque au moment de David Tennant, si mes souvenirs sont bons, dans l'épisode de la rencontre. On a un épisode même où Dr. Who... Le docteur va directement dans cette dans cette librairie pour lui rendre visite. Je ne sais plus par quel moyen, mais j'ai souvenir de cette scène. J'arrive pas à retrouver non plus. Et dans la fin de la bibliothèque, justement, que cet épisode en deux parties, on voit carrément la vie de Riversong dans un monde totalement factuel, tout en sachant qu'elle est morte.
Il la dématérialise.
Qu'est-ce qu'on a d'autre?
J'étais en train de penser, il n'y a pas un épisode de fantôme dans Doctor Who. Enfin, ce qui est intéressant dans Doctor Who, c'est qu'ils prennent régulièrement des figures fantastiques ou autres et qu'ils plaquent une explication dessus. Il y avait une histoire, c'est pas avec Dickens qu'il y avait une histoire de fantôme, c'est... justement. Et j'arrive pas à me rappeler quelle était l'explication SF derrière.
C'est
quelqu'un. Mais je trouvais intéressant parce qu'ils prennent vraiment l'imagerie du fantôme classique. Et puis, ah ben non, c'était de la SF. Et j'aimais bien ce genre de twist, justement, sur ça aussi. Mais alors, désolé, là, j'ai la mémoire qui flanche, ça fait des années que je l'ai vu, celui-là.
Moi aussi, j'ai la mémoire qui flanche. C'est quel film de science-fiction où le jeune garçon a l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre dans la bibliothèque et il est envoyé dans le futur et il est réduit, il est de taille microscopique et c'est lui-même qui pousse le livre pour se donner un avertissement pour l'avenir.
C'est pas Machin et le monde des livres ou...
Non, c'est un roman, c'est un film de science-fiction.
Est-ce que ce ne serait pas plutôt Interstellar?
Peut-être. Alors là, c'est... On l'a eu, merci. Mais c'est pas du tout une histoire de fantôme, mais ça joue avec nos... avec les clichés qu'on connaît du fantôme qui va toujours faire tomber le livre important et qui va envoyer des signes de l'au-delà. Ça ne répond pas du tout à ta question, mais c'est une réponse.
Est-ce qu'il y a une autre question par hasard?
Oui, bonsoir. Par rapport au parallèle sur le corps astral, dans les œuvres de cyberpunk, très souvent, on trouve des hackers qui projettent leur esprit dans la matrice. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport au thème du corps astral? Finalement, on n'est pas très très loin du même principe.
Oui, c'est cette histoire de cloud là, développée par Black Mirror. Voilà.
Oui, ben c'est ça, mais en même temps, c'est ça, on est dans la matrice, on est dans la réalité virtuelle, mais en même temps, dans la mesure où c'est la réalité telle qu'on la connaît, c'est vrai que au fond, ça ne fait pas grande différence. Il y a deux types aussi. Il y a les gens qui s'envoient dans la matrice, mais il y a les gens qu'on envoie à leur corps défendant aussi. Donc, il y aurait peut-être les deux catégories aussi. Mais oui, il y a peut-être... Il y a peut-être un élément astral là-dedans.
Je repense dans différents films, enfin, différentes œuvres en science-fiction, où on voit des fois des personnages qui enregistrent des messages par hologramme, où c'est des réponses déjà préenregistrées. Généralement pour guider le héros dans sa quête ou quelque chose comme ça. Et je trouvais que du coup ça faisait vraiment écho au fantôme, parce que généralement la personne en plus est morte quand elle a ça, ou alors c'est quelqu'un qui est déjà dans le passé. Et donc on a vraiment cet hologramme qui vient dans un but, généralement pour régler une affaire, soit pour son cadavre, soit pour autre chose. Mais voilà, je trouvais qu'on a vraiment un écho du fantôme dans la science-fiction, avec un peu ce côté d'hologramme ou d'IA. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, il y a le médecin hologramme aussi dans Star Trek, qui développe presque une conscience. Il est un hologramme censé exécuter des diagnostics, des opérations, mais il devient, il va avoir sa propre personnalité aussi. Alors, mais il est immatériel en même temps. Donc, est-ce que ça pourrait aller dans le même sens, peut-être?
J'ai toujours pas vu Star Wars, donc.
Bonjour, peut-être. On va prendre une dernière question, s'il y en a une.
Bonsoir. Alors, moi, c'est plutôt une remarque vis-à-vis des fantômes numériques. On a déjà vu, en fait, des cas concrets de proches qui avaient des habitudes de jouer aux jeux vidéo avec. Des proches à eux. Et en fait, ces gens sont décédés et, en fait, avec les sauvegardes, ont laissé des souvenirs à leurs proches. Par exemple, des jeux de course où il y avait toujours le record enregistré, ou alors. Des messages qui étaient envoyés à travers le jeu. Donc, en fait, eux vivaient ça comme un lien qui était resté avec leurs proches alors que ceux-ci étaient décédés.
C'est beau.
Bah, du coup, on peut prendre quand même une dernière question, puisque ce n'était pas une remarque, s'il y en a une, juste à part.
Bah, pour revenir sur ce que disait le jeune homme, c'est un peu l'idée du fantôme, le fantôme d'un souvenir. Il y a une série qui s'appelle Inside Number 9, où vous avez cette situation avec deux personnes mises dans une pièce. On les voit interagir tout au long de l'épisode. C'est une série d'anthologie, hein. Et à la fin, on se rend compte en fait qu'il imaginait son ami qui vient de décéder et il vient pour faire l'enterrement. On se rend compte en fait qu'il est en train d'imaginer tout ça et il était face au fantôme du souvenir de son ami. Et donc, il était un petit peu en train de régler les comptes qu'il avait avec tout son ami. Mais le fantôme d'un souvenir, du coup, est-ce qu'il est, je sais pas comment dire, mais plus, il a plus de crédibilité qu'un fantôme d'un être vivant?
Pas, il me semble que c'est un des cas de figure qu'on évoquait tout à l'heure, le souvenir d'un événement, le souvenir de quelque chose. Il me semble que c'est, je sais pas, crédibilité. Il me semble que c'est la même logique en fait. Je comprends pas trop la question de la crédibilité en fait, j'avoue, sur ça.
Bah, par rapport au fait ou si c'est la personne en elle-même qui oui. revient hanter en tant que fantôme, mm-hmm. ou si c'est quelqu'un qui se souvient de toi et qui te crée un oui. petit peu un fantôme sans que vraiment ton esprit ne soit rappelé pour autant, mm-hmm. mais que tu puisses être là. Interagir avec la personne qui t'imagine. On est presque sur de la schizophrénie, mais c'est pas vraiment ouais. ça. C'est vraiment le fantôme d'un souvenir.
C'est un peu l'histoire même du fantôme. Enfin, après, bon, moi, j'ai plutôt tendance à croire aux fantômes, mais finalement, si on invente toutes ces histoires de fantômes, c'est par rapport à cette problématique-là. C'est pour garder un espoir et se dire que tout n'est pas fini et qu'on peut reconvoquer les gens.
C'est pas mal comme conclusion, je pense. Il est 19, il est 18h, il y a une conférence, je crois, juste après. On vous remercie tous d'être venus aussi nombreux pour ce moment avec vous. On vous souhaite une bonne fin de festival et on vous dit à bientôt.